les jeunes et le monde du travail aujourd'hui. Et suite aux transformations survenues avec la globalisation, comment appréhender des réalités comme le chômage, la précarité, la mobilité? Comment préparer les jeunes à cette nouvelle donne? Comment les aider, les soutenir? Comment favoriser l'esprit de créativité et d'initiative? Et plus amplement, redécouvrir la signification du travail pour la vie de l'homme, repenser le travail comme lieu de solidarité et aussi d'annonce et de témoignage de l'Évangile. Nous en parlons avec l'un des intervenants au 9e Forum international des jeunes, le père jésuite Dominique Pécou, conseiller spécial pour les affaires socio-religieuses du Bureau international du travail à Genève. Voilà ce qu'il leur dit à ces jeunes.
Ce qui me paraît très important, c'est que ces jeunes qui viennent du monde entier et qui ont tous des problèmes d'accession au travail se rendent compte que c'est un problème vraiment universel dans tous les niveaux de développement économique de tous les pays. Et donc qu'ils se sentent déjà moins seuls dans les problèmes qu'ils rencontrent. Combien nos sociétés sont malades de ce que les jeunes ne soient pas mis au travail. Parce qu'il n'y a aucun doute qu'ils représentent la plus grande énergie pour développer les sociétés demain, et que s'ils ne sont pas au travail, petit à petit, ils rentrent eux-mêmes dans une désespérance chronique qui risque de ne pas les rendre aptes du tout à gérer la société que nous allons leur léguer en héritage.
Alors justement, on pointe souvent du doigt la mondialisation. Où le bât blesse, selon vous?
Il y a surtout un aspect très négatif de la mondialisation des marchés financiers qui entraîne une dérive par rapport à ce que devrait être un cercle vertueux entre le capital et le travail. Dans la doctrine sociale de l'Église, on montre très nettement qu'il doit y avoir une bonne circularité entre le capital et le travail. Le capital devant servir à créer des emplois, et les emplois créés étant destinés à pouvoir faire des bénéfices qui vont renforcer le capital. Mais ça, je dirais que c'est dans le cas de ce qu'on pourrait appeler une entreprise idéale. Le malheur, c'est que pour des entreprises qui sont cotées à 100% sur les marchés, la finalité de l'entreprise devient l'augmentation la plus rapide possible de sa valeur capitalistique et le travail considéré comme un facteur de coût à réduire, et non plus du tout dans sa dimension de mise en commun d'énergie où des hommes et des femmes conspirent ensemble à faire un bien ou un service pour le bien de la communauté.
Peut-on dès lors parler de mise à mal du respect de la dignité du travailleur?
Oui, et le premier respect, c'est de voir que tout humain, chaque humain, est porteur d'une capacité créatrice. Nous avons tous été créés créateurs. Et nous devons par là trouver pour chacun quelle est la valeur ajoutée qu'il peut apporter à la communauté à laquelle il appartient. Nous sommes tous porteurs d'une valeur ajoutée potentielle. Malheureusement, les entreprises et les sociétés ne cherchent pas à créer des opportunités d'emploi qui respectent cette dignité humaine, un travail qui soit vraiment décent et permette à chacun d'exprimer sa capacité créatrice avec les autres.
Alors, vu votre fonction au BIT, vous avez certainement réfléchi à comment préparer les jeunes à ces nouvelles donnes très actuelles que sont la mobilité et bien sûr aussi la précarité.
D'abord, c'est déjà de leur donner des formations initiales qui soient adaptées au monde contemporain. Paradoxalement, on croit que comme il y a des difficultés à trouver un travail, il faudrait avoir très vite des formations professionnalisantes. Alors que ce qu'il y a de certain, c'est qu'il faudrait que, plus que dans le passé encore, on donne aux gens beaucoup plus un intérêt pour l'apprentissage, pour qu'ils sachent changer 3 ou 4 fois de métier durant leur vie. Et qu'il n'ait pas des formations nécessairement trop vite professionnalisantes. Il faudrait beaucoup plus créer des fondements à leur manière d'apprendre, à leur manière de rendre service. Il faudrait que ce soit des travaux qui, dans leur formation, leur donnent ce sens du service. Parce qu'il n'y a aucun doute que pour les travaux simples et opératoires simples, les ordinateurs sont beaucoup plus puissants que les hommes. En revanche, tous les métiers qui sont de l'ordre de la relation aux autres, là, l'intelligence artificielle est bien moins capable de faire concurrence à l'homme. Mais encore faudrait-il que l'homme soit formé à cette intelligence symbolique, à cette intelligence relationnelle, et probablement qu'il y a un grand déficit là-dessus.
Serait-ce à dire que c'est dans le relationnel que réside l'avenir du travail?
J'insiste sur la qualité des relations humaines, car les grands emplois de demain seront dans une notion de service. Et si les gens n'ont pas cette notion du service, de la relation à l'autre, du service à rendre, ils ne trouveront pas d'emploi. Dans un monde où nous aurons un tas d'automates qui réaliseront les opérations répétitives, les opérations opératoires, il y aura des gens qui seront là pour utiliser les produits qui sortiront de ces usines automatisées et qui les mettront à disposition des autres et qui devront créer du lien social. Je crois que les professions de demain seront avant tout des professions de création de liens sociaux. Comment va-t-on s'occuper des personnes âgées? Comment va-t-on rendre service aux gens qui auront des handicaps? Comment allons-nous créer une société de relations humaines? Et cette notion du service n'est pas seulement une notion caritative, mais elle est liée aussi au fait de pouvoir trouver un emploi demain.
Toujours est-il que pour l'heure, le marché de l'emploi reste problématique pour les jeunes.
C'est certainement un marché de l'emploi qui, pour les jeunes, est difficile dans l'accession au premier emploi, parce qu'il y a une augmentation de la productivité technologique qui fait que beaucoup d'emplois sont supprimés et d'autres ne sont pas recréés avec la même vitesse. Il y a donc là une difficulté qui est tout à fait considérable. De surcroît, il faut bien voir aussi que 84% des jeunes aujourd'hui sont dans les pays en voie de développement, c'est-à-dire des pays qui ont un sous-développement économique où il n'y a pas beaucoup d'emplois. Donc pour ces 84%, il faut trouver des emplois locaux. Et c'est là qu'il est très important de voir comment on peut créer des chantiers à haute intensité de main-d'œuvre. C'est-à-dire non pas du tout vous demander comment est-ce que je vais mettre le moins de gens possible sur un chantier, mais comment je vais mettre le plus de gens possible pour, avec les mêmes coûts, donner le plus de salaire possible et le faire le moins possible par des automates.
En quelques mots, quelle est la vision du travail qu'a l'Église ?
Je crois que l'Église le dit très bien dans le compendium de la doctrine sociale de l'Église, où il y a tout un chapitre qui porte sur le travail et qui insiste d'entrée de jeu pour bien rappeler que le travail n'a pas seulement une dimension objective, c'est-à-dire ce que vous produisez ou ce que je produis, le service ou le produit, l'objet, mais qu'il y a une dimension subjective du travail, c'est-à-dire comment le travail nous transforme. Votre travail ici à Radio Vatican vous transforme. Quand vous allez sortir de cette période où vous aurez travaillé ici, vous ne serez pas après comme avant. Notre personnalité se constitue dans notre lieu de travail. Et ça, c'est la dimension subjective du travail. Il y a une deuxième dimension sur laquelle la doctrine sociale de l'Église insiste, c'est la dimension sociale du travail. Sans travail et sans travail rémunéré convenablement, il n'est pas possible de créer une famille. La première unité sociale est impossible à créer. Donc vous voyez bien que le travail a une dimension subjective, a une dimension sociale et a une dimension aussi de passion créatrice. Et ça, la doctrine sociale le rappelle bien, en rappelant que le travail n'a pas seulement une dimension objective et que l'homme n'est pas seulement intéressant par ce qu'il produit.
Alors, qu'apporte dès lors la foi dans la conception du travail ?
Eh bien, la foi, elle est fortement liée déjà à l'espérance, d'abord à la certitude, que l'on crée ensemble et non pas seul. Je ne sais pas, vous n'aviez peut-être pas fait attention, mais quand vous dites que vous croyez en Dieu le Père Tout-Puissant, mais vous dites aussitôt après, cinq lignes après, qu'à propos du Fils, qui est de même nature que le Père, sans lui, rien n'a été fait. Ou par lui, tout a été fait, ce qui est la même chose. Donc vous déclarez en même temps la toute-puissance du Père et vous déclarez qu'il ne peut rien faire sans le Fils. Et c'est seule leur relation qui est capable de produire quelque chose. Eh bien, je crois que dans la mesure où nous croyons en un Dieu qui est relation substantielle entre le Père et le Fils d'où émerge l'Esprit, c'est exactement pareil dans notre vie courante. Est-ce que nous sommes capables d'en rentrer en relation l'un avec l'autre et en relation sans exercice de pouvoir l'un sur l'autre, mais vraiment en exercice d'attention l'un à l'autre, où en recevant notre vie de l'autre, nous allons devenir créateurs ensemble. Et ça, c'est typiquement notre foi trinitaire.